Chapitre 6. Du Babil. La tranquillité mélancolique avec laquelle Camilla avait ouvert la lettre se changea bientôt en un vif chagrin. Elle s'affligea d'avoir déjà manqué au devoir que lui rappelait cette lettre et qu'elle craignait de ne pouvoir observer à l'avenir. Mais ce qui la désespérait encore plus, c'est que l'écrit semblait annoncer que la malheureuse inclination qu'elle avait laissée connaître n'avait jamais obtenu, ni n'obtiendrait jamais, aucune espèce de retour. Elle frémit en songeant qu'Edgar pouvait même la pénétrer. L'orgueil, la raison, la modestie s'unirent pour la fortifier dans la résolution d'éviter à l'avenir tout ce qui pourrait la compromettre. L'article relatif à la fortune augmenta sa confusion. Rien ne lui paraissait plus humiliant que d'être dans le cas d'avoir jamais à se justifier d'une pareille imputation. Mais elle se glorifiait de la justice qu'elle avait rendue à Edgar. Elle pleurait à chaque expression de tendresse paternelle contenue dans cette lettre. Elle rougissait à chaque mot qui lui rappelait sa faiblesse et le peu d'espoir que celui qui l'a causé y prit le moindre intérêt. Mais au dernier paragraphe, elle ne put s'empêcher de coller ses lèvres sur le papier. Elle en baisa respectueusement les caractères et prit l'engagement solennel de se conformer exactement à tout ce que son père désirait. Elle en était là lorsque Mistress Arbury vint frapper à sa porte et lui demanda si elle voulait dîner dans son appartement. Surprise de cette question et du temps qui s'était écoulé, honteuse d'être vue dans l'état où elle était, elle demanda pardon de ne s'être pas habillée. Mais Mistress Arbury l'interrompit en lui disant que les excuses étaient ce qu'elle détestait le plus. « Quand il me tombe, dit-elle, quelque cousin campagnard qui ne connaît pas ma manière et que je ne puis échapper à ses compliments, je me mets à bâiller et me voilà malade pour toute la journée. » Camilla, essayant de sourire, promit de ne plus parodier le cousin de campagne. Mistress Arbury s'aperçut alors qu'elle avait pleuré, elle lui prit la main et, la regardant avec attention, elle lui dit « Il ne faut pas prendre du chagrin, ma belle enfant !»« Quoi, madame? Comment? Que voulez-vous dire ?»« Rien, rien, ne vous effrayez pas. Venez dîner et nous causerons ensuite. Ne songez point à votre toilette, nous n'allons nulle part ce soir. » Et je me suis fait un devoir de ne pas souffrir que personne fît deux toilettes chez moi, parce que le soir prendrait la place du matin. Il me semble peu flatteur pour une maîtresse de maison que ses hôtes s'habillent uniquement pour se mettre à table. Quant à moi, je garde l'habit qui me plaît. » Camilla suivit Mistress Arbury dans le salon, où elle ne trouva d'autre compagnie que Sir Sedley Clarendel. « Venez, ma chère Miss Tyrold, dit Mistress Arbury, nous pouvons nous regarder ici comme en tête à tête. Sir Sedley ne nous importunera point, car il ne voit et n'entend que lui-même. » « C'est un compliment très flatteur que vous me faites, dit Sir Sedley. Vous entendez maintenant parce qu'on parle de vous, mais qu'on parle d'un autre, vous oublierez que vous êtes avec nous dans le salon. Voilà vos honnêtetés ordinaires, que vous êtes barbare et inhumaine. C'est une si étrange créature, dit Mistress Arbury à Miss Tyrold, qu'il faut que je vous mette un peu au fait de son caractère, ou plutôt de sa caricature. Car pour du caractère, depuis 3 ans, je ne lui en connais point. Voyez comme il sourit à chaque mot pour ne pas avoir l'air d'en être affecté. Il sait pourtant bien que je ne lui ferai point de grâce. Mais comme tous les égoïstes, ce qui le fâche le plus, c'est qu'on ne fasse pas attention à lui. Soit en bien, soit en mal, pourvu qu'il soit l'objet de la conversation, il est content. Finissez, finissez donc, c'est une chose horrible. Oh, je n'ai pas encore commencé. Ce que je viens de dire convient à 1000 autres. Mais soyez tranquille, il ne manquera rien à votre portrait. Miss Tyrold, vous allez être juge. Il vous en coûterait de déchiffrer cet original. Je veux vous en épargner la peine. Tel que vous le voyez, ma bien chère Miss, il était né pour autre chose que ce qu'il est. Mais, par malheur, il ne s'est point trouvé assez de solidité dans le jugement, assez de souplesse dans le caractère, pour tirer parti des avantages que la nature lui avait donnés. À l'âge de 21 ans, il réunissait tous les avantages de la fortune, de l'esprit et de la figure. si vous l'aviez connu comme moi, avant qu'il eût cette manie d'affectation qui lui a coûté sans doute plus de peine, plus de travail, plus d'études, que n'auraient pu lui en imposer les pédants réunis de toutes les universités, vous auriez dit que c'était la plus aimable de toutes les créatures. Vous auriez admiré son esprit, sa gaieté, son intelligence. Mais maintenant, rien ne lui paraît digne d'être recherché. Il n'a pas la force de faire usage de ses facultés, il s'abandonne à lui-même, il lui est trop pénible de se diriger. C'est un effort au-dessus de son indolence. Il a donc renoncé à tous les plaisirs de l'activité et des talents. Il s'est passionné pour l'oisiveté. N'avoir rien à faire, n'être obligé de plaire à personne et de se donner aucun soin, voilà pour lui le suprême bonheur. Ôtez-lui la moitié de son esprit et diminuez sa présomption, vous le guérirez de sa folie. Privez-le de sa fortune et forcez-le à s'occuper, vous en ferez un des premiers hommes du siècle. Disgraciez sa figure et prouvez-lui qu'il ne suffit pas de se présenter pour être admiré, vous en ferez l'être le plus séduisant. Avez-vous fini ? Dit le baronnet en souriant. Je sais bien que tout cela ne vous fait aucune impression, dit Mistress Albury, et je n'ai nulle envie de vous réformer. Charmant caractère, en effet, tout à fait obligeant. Cependant, je ne puis le haïr. Je déteste le vice, j'enfuis toutes les apparences dans toutes mes sociétés, et j'aimerais mieux que mes sièges restassent vides dans mes appartements que de le voir s'établir chez moi. Mais les ridicules font le charme de la société. Ils donnent de l'occupation à l'esprit en provoquant la raillerie. Clarendel a d'abord été l'objet de mon admiration, et maintenant, c'est lui qui contribue le plus à mon amusement. J'ai donc le prodigieux honneur d'être dans vos bonnes grâces parce que je vous amuse. Mais voilà de quoi flatter excessivement mon ambition. Ici, Mistress Albury demanda à Camilla si elle n'avait pas quelque chose à envoyer à Clèves, car un domestique de la maison allait fermer la porte du parc. Camilla, charmée de se retirer, dit qu'elle allait écrire deux mots à son père et sortit en effet. Dès qu'elle fut hors de la salle, elle devint l'objet de la conversation. « Que faire pour cette pauvre enfant ?» dit Mistress Albury à Sir Clarendel. « Elle a perdu toute sa vivacité, toute sa gentillesse. Je souffre à la regarder. Elle a tous les symptômes d'une première inclination, d'un amour sans espérance. » « Pauvre petite, dit le baronnet, il serait affreux de la guérir pour la rendre insensible. Quoi de plus intéressant qu'elle dans toute la nature? Je la vois maintenant avec plus d'intérêt. Peut-on s'empêcher de soupirer à son approche ?»« Je vous crois assez fou pour cela, reprit Mistress Albury. Mais raillerie à part, c'est une charmante fille et je la trouve horriblement changée. Elle se sera peut-être passionnée pour le premier venu. » Car les jeunes personnes, en entrant dans le monde, ont toutes dans l'esprit un être idéal dont elles sont éprises. Et avant que l'expérience leur ait formé le jugement, elles ne manquent pas d'appliquer ce modèle au premier jeune homme qu'elles rencontrent et de le trouver parfaitement adapté. « Je crois, ajouta-t-elle, que le jeune Mandelbert est son héros. J'en juge par quelques conversations particulières et par sa rougeur quand elle est obligée de prononcer son nom. » « Eh, mais, dit le baronnet, cela ne serait pas trop mal calculé. Biche Park n'a rien d'effrayant pour une jeune demoiselle, surtout si elle se pique de philosophie. » Je suis sûre que cette idée-là même est dans la tête de Mandelbert. Nos jeunes cavaliers, s'ils sont riches, oublient rarement cet avantage. Vous savez d'ailleurs que Mandelbert est ma bête d'aversion. Son air et sa réputation d'homme parfait me donnent le spleen. Je désire pour Camilla qu'il ne songe point à elle, car il lui rendrait la vie très dure. Un homme qui se pique lui-même de tant de perfection n'imagine rien de plus commode pour prouver son mérite que de trouver toujours à redire à ceux qui sont autour de lui. Cependant, il est rare qu'un homme de ce caractère se marie, surtout s'il est riche et si rien ne l'arrête en son chemin. Que voulez-vous donc que je fasse pour cette pauvre créature ? La vraie nature de sa maladie est de nourrir de fausses espérances. Je voudrais pouvoir l'en guérir, mais la difficulté est, suivant l'usage ordinaire, de savoir comment. Je désirerais que Sir Sedley se chargeât de ce soin. Moi ? Impossible, absolument. Comment voulez-vous que je me hasarde à entrer en lice avec M. Mandelbert ? Oh, je connais votre vanité, reprit Mistress Albury. Vous savez très bien que s'il est riche, vous êtes encore plus riche que lui. Que s'il est aimable, vous l'êtes davantage. Du reste, il n'y a qu'une très petite différence entre vous deux. Il est raisonnable et vous êtes fou. Il est régulier dans la conversation et vous êtes ridiculement extravagant. Mais je parie avec tout cela que vous n'auriez qu'à faire un peu votre cours à Camilla pour que Mandelbert ne lui parût bientôt qu'un pédant. Que l'esprit d'une femme est un méchant esprit, dit Sir Sedley, il tourne tout en mal. Ne voudriez-vous pas que je devinsse le Don Quichotte de quelque dulcinée de votre invention? Votre dessein n'est pas sans doute de me persuader de prendre une femme. Je proteste que la moindre proposition de cette nature me ferait fuir à l'extrémité du pôle. Non, non, je vous connais trop bien pour ne pas savoir quel égoïste vous êtes, et je ne vois pas qu'il soit nécessaire de marier si tôt cette pauvre enfant. Je ne vous demanderai d'autre sacrifice qu'un peu d'attention, et tout ce que je désirerais pour cette jeune fille serait qu'on pût ouvrir ses yeux, maintenant couverts d'un bandeau, qu'on lui fit voir que Mandelbert n'a d'autre avantage que de s'être offert le premier à ses regards. Ne vous figurez pas que je souhaite qu'elle devienne amoureuse de vous, que le ciel préserve cette pauvre victime de tomber dans cette malheureuse extrémité. Allons, me voilà de nouveau enflammé de honte et de colère. Je ne sais quel empire vous prenez sur mes sensations, mon sang bouillonne ou se glace à votre commandement. Mais voyons, jargon à part, voulez-vous n'être d'aucune utilité à personne? La guérison d'un premier amour est un meilleur garant pour l'avenir que toutes les recommandations des pères, des mères, des oncles ni des tantes. Sauvez maintenant cette jeune personne, vous la servez pour la vie. Vous me ferez d'ailleurs un très grand plaisir en enlevant cette conquête à la pathique Mandelbert. Que je plains ce pauvre berger, dit Clarendel, d'avoir encouru votre disgrâce. Faudra-t-il qu'en votre faveur, on le bannisse comme un autre Aristide, pour que vous n'ayez plus le désagrément de l'entendre appeler le juste? Fit-on jamais allusion plus impertinente? Je dois pourtant avouer qu'elle est vraie. Mandelbert ne m'a jamais offensé, et cependant, je ne serais pas fâché de le voir humilié, car je suis persuadé qu'il me hait. Mais pourquoi ne vous adressez-vous pas à la galante cocarde? Oh, major! Oh, j'ai déjà remarqué qu'elle reçoit ses soins avec indifférence. Il n'y a que vous, vous seul, qui puissiez la guérir. Vous avez assez d'agréments pour neutraliser sa passion et vous n'êtes pas assez intéressant pour lui faire courir de nouveaux risques. Grand merci, divine Arberiana. Les filles, en général, continua-t-elle, sont insupportables aux femmes. Si vous ne les placez pas auprès de leurs admirateurs ou de ceux qu'elles admirent, elles meurent d'ennui. Et s'ils sont ensemble, c'est vous-même que l'ennui dévore. Ici, Camilla reparut. Elle avait écrit un billet à sa sœur pour l'exhorter de nouveau à se confier à Edgar, la priant instamment de lui écrire à elle-même s'il se présentait quelque nouvelle difficulté. Elle avait écrit aussi quelques mots très tendres pour son père, s'engageant à suivre ses instructions du mieux qu'elle pourrait. Sir Sedley remonta dans sa voiture et Camilla s'efforça le reste de la soirée de répondre plus gaiement aux tendres civilités de sa pétulante hôtesse.